Daniel Hébert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous en ce lundi matin sur Radio Judaïka. Alors, cette semaine, nous avons beaucoup parlé en Belgique d'une affaire, d'une histoire. Un député du Vlaams Belang, le parti d'extrême droite en Belgique, est soupçonné et avéré d'avoir été espionné par la Chine. Alors, Daniel Hébert, pourquoi la Belgique?
Alors bon, la Belgique n'est pas le seul pays qui fait l'objet d'attention particulière de la Chine. Soit que la Chine cherche à avoir des informations, soit qu'elle cherche à influencer la position des pays. Mais c'est vrai qu'aux yeux des Chinois, la Belgique est un pays important. Ils connaissent l'histoire, ils connaissent la géographie, ils connaissent la politique, ils savent que la Chine est un des membres fondateurs de l'Union européenne, que c'est le centre névralgique des institutions européennes, ils le savent très bien, mais aussi en tant que pays, c'est un pays intéressant pour la Chine parce que c'est un pays équilibré, qui a de l'industrie, qui a de l'agriculture, qui a des services, qui a de la technologie, c'est un pays complet. Et c'est un pays qui est intéressant parce que c'est un pays, au fond, multiethnique, multilangue, avec une grande immigration musulmane, en particulier marocaine. Et comment les Belges arrivent à au fond, réussir à obtenir tout ça alors que les Français semblent un peu plus débordés. Vous voyez, y a toutes ces interrogations pour les Chinois, c'est important. Pourquoi? Parce que ils ont envie d'investir. On va peut-être en reparler plus longuement, mais il y a un grand besoin d'internationalisation de l'industrie chinoise. Et donc la Chine va commencer a déjà commencé à implanter beaucoup d'usines à l'étranger. Et l'Europe, c'est une cible importante pour eux. Et avoir en Belgique une usine, alors là, on parle d'une usine de camions semi-remorque électrique, mais ce n'est qu'un parmi d'autres. Il y a beaucoup de projets. Il y a déjà des réalisations. Il y a beaucoup de projets chinois. La Chine a remarqué que la Belgique est un pays ouvert, un pays ami, amical, tolérant. Et puis il y a un grand port, Anvers, un des plus grands ports du monde. Donc ça en fait un pays de redistribution des productions industrielles implantées par la Chine pour toute l'Europe. Donc c'est un pays qui a donc beaucoup d'intérêt pour la Chine. Donc ce n'est pas anormal qu'il cherche, comme tous les autres pays et dans tous les autres pays, à avoir des informations et de l'influence. Ça ne fait que commencer. Ça a déjà commencé depuis longtemps et ça continuera évidemment.
Alors, plus globalement, vous avez parlé du port d'Anvers. Quelle est la stratégie de la Chine, Daniel Abbé?
Alors, la stratégie de la Chine, d'abord, c'est de gérer sa confrontation avec l'Occident. La Chine n'a pas souhaité être en confrontation. Elle était en partenariat avec l'Occident depuis 1980 jusqu'à au fond que Xi Jinping arrive au pouvoir et qu'arrive aux États-Unis au pouvoir Obama, Trump et Biden. Donc là, on est entré depuis une bonne dizaine d'années hein, dans une sorte de confrontation qui n'empêche pas d'ailleurs la Chine et les Américains, la Chine et l'Europe à avoir de grandes relations commerciales comme avant. Hein, c'est pas la guerre froide hein, entre nous. D'ailleurs, la Chine n'est pas notre ennemi. C'est un rival, c'est pas un ennemi. Et donc la Chine doit gérer tout ça. Et quand elle regarde la carte du monde, elle s'aperçoit que l'Europe, c'est un territoire intéressant pour, au fond, deux raisons. D'abord, vous savez que le grand projet de Xi Jinping, qui a été annoncé en 2013, c'est ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, hein, la Belt and Road Initiative, qui vise à irriguer ce grand continent qui est composé de l'Asie, de l'Europe, mais aussi de la Russie, de l'Asie centrale, de l'Asie du Sud autour de l'Inde et de l'Afrique. Vous voyez, cette masse terrestre qui est l'essentiel de la Terre, d'ailleurs, de notre continent, de notre planète, et de l'irriguer de transport, d'infrastructures à la fois matérielles et immatérielles. Et donc, quand on regarde bien, le vrai objectif pour l'industrie chinoise, c'est le grand marché européen. Et donc ça passe par l'Asie centrale, ça passe par beaucoup de choses, mais c'est quand même le grand marché. Et donc on peut dire que c'est pour ça que l'Europe a une importance particulière pour la Chine et que l'Europe a toujours au fond, engager un vrai dialogue avec la Chine. Le deuxième objectif sur la Chine, mais qui est complémentaire de celui-là, c'est cette politique d'investissement dont je parlais. Pendant 40 ans, la Chine a reçu des centaines de milliards des pays étrangers qui venaient s'installer chez elle, et donc elle a bénéficié d'un flux de ce qu'on appelle des FDI, des Foreign Direct Investment, des investissements directs à l'étranger qui venaient de tous les pays du monde. Mais à son tour, et parce que la puissance économique chinoise a atteint un certain niveau, la Chine est devenue un exportateur de capitaux, c'est-à-dire qu'elle achète des entreprises à l'étranger, elle prend des participations un peu partout et elle installe ses propres usines. Vous savez que la Chine est la plus grande nation industrielle du monde. Et ils ont leur propre maintenant usine à 100% chinoise, les voitures électriques, ça c'est le grand domaine, mais aussi l'électroménager, les ordinateurs portables, les Huawei, toute la
Oui, les
5G et tous les...
téléphones.
Et les téléphones, donc. Donc vous voyez que tout ça est très puissant. Donc ils commencent à installer des usines, alors en Afrique déjà, il y a des usines textiles chinoises en Éthiopie, mais évidemment pour installer des vraies usines, notamment voitures électriques, panneaux solaires, tout ce qui touche à la green technology, l'Europe est un territoire d'investissement massif, et donc on va aller voir... déboucher. Leur angoisse pour les Chinois, c'est de se voir interdire des investissements. Donc, d'où cette politique d'influence et de recherche d'informations, parce qu'ils ont besoin de savoir sur quel bouton appuyer pour pouvoir avoir des accords d'investissement. C'est un problème assez classique de tout le monde. Et voilà un petit peu la stratégie de la Chine, qui montre que l'Europe est une cible tout à fait privilégiée.
Alors, Daniel Havert, comment se passe la politique actuelle en Chine et sous question, quelle est leur position dans le conflit actuel depuis le 7 octobre?
Alors, donc la politique chinoise, elle est mondiale, vous avez raison de le rappeler. Elle est évidemment préoccupée par ces deux conflits qu'elle n'a pas souhaités, qu'elle n'alimente pas. Ne livre pas de guerre aux ennemis d'Israël ni aux ennemis de l'Ukraine. Elle aide indirectement la Russie en lui achetant son pétrole. Elle aide indirectement l'Iran en lui achetant aussi son pétrole. Mais elle ne va pas plus loin. Et on a vu en particulier une forme de très grande prudence de la Chine, par exemple au moment où les Houthis ont font. Interdit la mer Rouge aux navires commerciaux qui alimentaient, qui apportaient des marchandises à Israël. Les Houthis ont dit aux Chinois, vous pouvez passer sans problème, ne vous tirerons pas dessus. Mais les Chinois ont eu peur qu'il y ait un incident regrettable. Et ils ont vu aussi les primes d'assurance augmenter. Et donc, finalement, ils ont choisi de contourner par l'Afrique. Oui, donc c'est très étrange de voir une des plus grandes puissances du monde céder à une bande de miliciens houthis, j'allais dire en guenilles, non, ils sont très bien équipés, mais enfin, bon, bref, est extrêmement prudent. Alors, si vous voulez, le grand jeu mondial aujourd'hui, si on veut essayer de trouver quelque chose de solide à expliquer, c'est que nous ne sommes pas dans une nouvelle guerre froide. Ça, c'est très important à dire. C'est-à-dire que entre la Chine et l'Occident, les échanges commerciaux, les investissements, les échanges de toute nature sont extrêmement actifs. Moi, j'étais invité au mois de janvier à aller parler en Chine et j'ai vu combien la Chine a envie de ne pas se sentir isolée de l'Occident. Et il y a un mot qui vient aux lèvres des Chinois comme des Occidentaux, évitons le découplage, évitons une nouvelle guerre froide. Donc dans cet entre-deux qui est on se méfie de la Chine mais on ne veut pas se séparer de la Chine, il faut trouver un équilibre. Et puis il y a chez les Chinois aujourd'hui qui observent la politique intérieure américaine avec la plus grande attention, la grande crainte de voir Trump élu et de voir Trump chercher un accord avec les Russes, en disant, let's have a deal, hein, on va trouver un accord sur l'Ukraine, Vous êtes finalement des blancs occidentaux chrétiens orthodoxes, mais quand même chrétiens. Formons une grande coalition contre le péril jaune. Donc le cauchemar chinois, il est là. Et donc, face à ce danger, la Chine a intérêt à séparer l'Occident en différents morceaux. Il y en a trois. Il y a les États-Unis, il y a l'Europe, et puis il y a ces pays qui sont des pays asiatiques, mais pro-occidentaux, comme le Japon, la Corée, Singapour, etc. Et donc, la Chine mène une politique de division de l'Occident, assez habile, par l'argent, par le commerce, et elle dit aux Européens, si vous jouez la carte chinoise, nous, on va vous abonder de bienfaits par nos investissements. Ils ont dit la même chose aux Japonais et aux Coréens, qui finalement, qui ont une culture commune avec la Chine, ne sont pas des ennemis de la Chine. Donc vous voyez que cette stratégie chinoise, elle vise à diviser autant que possible ce bloc occidental qui n'en est pas un. Nous ne sommes pas dans un bloc, nous sommes plutôt dans une coalition. Et ils voient tout ce qui sépare, par exemple l'Europe des États-Unis, les frictions, les différentes analyses, etc. Voilà un petit peu la stratégie globale de la Chine.
Eh bien, Daniel Haber, merci pour ces éclairages sur la position de la Chine dans le monde actuellement. Merci pour ces conversations et on se retrouve lundi prochain.
À bientôt.